I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille draft, la deuxième sur 32. Si vous l'avez loupé, nous avons publié hier la pastille qui concerne les Chicago Bears. Et aujourd'hui, ce sont les Washington Commanders qui sont au menu. Et pour m'accompagner, Grégory Richard. Bonjour à toi, Grégory.
Salut, Victor, et salut tout le monde.
Grégory, oui. Hier, avec le numéro 1, les Bears ont sélectionné Caleb Williams. Arrêtez. Mais l'avantage, c'est que pour Washington, il reste du monde au poste de quarterback parce qu'on ne va pas se mentir. Le plus probable aujourd'hui serait qu'ils aillent au poste de quarterback. Qui a reçu l'extrême honneur d'être le numéro 2 de la draft? Je te laisse nous l'annoncer avec une musique circonstance, hein, évidemment, tam-tam-tam, ta-da-dam-tam-tam, avec le numéro 2. Washington sélectionne.
Drake May, quarterback de North Carolina. Alors, je vais le dire tout de suite parce que j'ai eu, à titre personnel, énormément d'hésitations sur ce choix. Je fais partie de ceux qui n'écartent pas trop Jaden Daniels de l'équation parce que je pense qu'il peut rentrer dans le style de jeu offensif prôné par Cliff Kingsbury, à savoir des quarterbacks ultra mobiles, capables de vraiment jouer dans la verticalité comme il l'a montré du côté d'LSU la saison dernière et ce qui lui a permis d'être meilleur joueur universitaire en 2023. Après Drake May, cette mobilité, il l'a malgré tout. Et c'est vrai que malgré les changements de coaching staff qu'il a connus ces derniers mois du côté de North Carolina, on a vu qu'il était parfaitement capable de performer, d'avoir un bon bras, de jouer dans n'importe quel type de situation, encore une fois de prolonger les jeux. Une intrigue, moi, qui en tout cas, que je trouvais un petit peu non négligeable, c'était le fait potentiellement de se retrouver dans le même vestiaire que Sam Howell, dont il avait été le backup du côté de North Carolina. Donc cette équation n'entre plus en jeu, puisque Sam Howell a été échangé du côté de Seattle et que c'est désormais Marcus Mariota, à l'heure où on enregistre cette émission, qui est le quarterback potentiellement titulaire. Donc ça change énormément de choses. Et ça m'amène à penser qu'en effet, Drake May est peut-être, à mes yeux en tout cas, et je pense à tes yeux également, peut-être le quarterback intrinsèquement le plus sûr. C'est peut-être pas celui dont on se dit à marge de progression et la plus énorme, mais dans la situation dans laquelle est Washington, avec ce qu'on a vu l'année dernière de Sam Howell, malgré une fin de saison en autre boudin pour les Commanders, il ne faut pas grand-chose, je pense. Il y a cette fameuse formule de « ils sont un quarterback des playoffs », il faut un peu plus de choses dont on parlera après, mais en tout cas, Drake May peut insuffler cet air nouveau qui, à court ou moyen terme, peut permettre à Washington de rejouer des coudes rapidement dans la conférence nationale.
Je suis d'accord avec ça. Je pense que la discussion entre May et Daniels, elle fait du sens. Mais encore une fois, tu parlais de mobilité. Je pense que les gens sous-estiment beaucoup la mobilité de Drake May. Mm-hmm. On parlait de jeu profond. Drake May a le bras pour faire le jeu profond lui aussi. En plus, tu me connais, hein, il a 2 ans de moins quand même.
Ah,
on peut se dire qu'il a peut-être une marge de progression plus forte que celle de Jaden Daniels. Évidemment, c'est loin d'être automatique, sinon ce serait trop simple. Mais globalement, je trouve que c'est... Moi, c'est vrai que Drake May, j'aime beaucoup. Après, il est dans un système aujourd'hui qui est assez limité. Donc,
Parfois, je trouve qu'il est bridé même, alors qu'il est capable de vraiment faire tous les types de lancers. Et je pense, peut-être à tort, hein, que Jaden Daniels est un peu plus limité en termes de variété. Donc, Drake May, pour moi, c'est le bon choix. Et je pense que Washington, globalement, même si évidemment, enfin, Washington, c'est difficile, hein, nouveau propriétaire, nouvel entraîneur, etc. Même si l'entraîneur, évidemment, on le connaît un petit peu, hein, quand même, Dan Quinn. Mais c'est difficile de voir dans quel sens ils vont tourner, parce que je pense vraiment que le propriétaire est du genre à vraiment venir donner son avis. Donc, ça peut changer les choses. En tout cas, Drake May a donc été sélectionné. Et on arrive ensuite au deuxième tour. Sachant qu'au deuxième tour, je l'annonce tout de suite, les deux choix dont on va discuter sont presque au même niveau, puisque c'est le choix 36, qui est le choix de Washington, et le choix 40 qu'ils avaient eu dans le trade de Montez Sweat, d'ailleurs, qui a été transféré à Chicago. Donc, ils ont deux choix de tout début du second tour. On est encore dans le top 50. Et le premier choix ici, c'est Jordan Morgan, joueur polyvalent de ligne offensive. On sait historiquement, ça fait des années que Washington a du mal sur la ligne offensive. Là, clairement, l'idée, c'est toujours protéger ton jeune quarterback.
Bah, clairement, je crois qu'en tant que tackle gauche, depuis Trent Williams, il n'y a pas vraiment eu de vrais joueurs d'envergure, hein, sans vouloir faire un jeu à Charles Leno qui a été libéré pendant cette intersaison. Donc c'est sûr qu'il faut repartir un petit peu sur de nouvelles bases, et après avoir trouvé potentiellement ton quarterback du futur avec Drake May, ce serait bien de trouver ton tackle côté aveugle que peut représenter Jordan Morgan. C'est vrai que y a peut-être d'un point de vue, on va dire, puissance, on va dire, il est peut-être un petit peu en déficit par rapport à d'autres Golgoth de cette classe de tackle, mais c'est vrai qu'on a affaire à un profil athlétique assez étonnant, plutôt petit pour la position de tackle également. Il doit être à un bon 1m95-96, je sais que ça va en faire sourire beaucoup, mais on sait que sur la position de tackle, il faut être à un bon 6-6-6-7, comme on dit généralement, pour totalement rassurer les observateurs. Donc c'est vrai que ça a tendance à le faire un petit peu baisser, ce léger déficit de puissance et de taille. Après, quand on le voit jouer, pardon, et évoluer, c'est un joueur qui a une tête bien faite et surtout qui a des très bons appuis, une excellente mobilité qui sont vraiment précieux sur justement le côté aveugle du quarterback. Si on ajoute à ça des fameuses mains violentes, bah, globalement, je trouve qu'il ne faut pas forcément grand-chose. On a déjà vu des joueurs qui culminaient pas à 2 mètres se faire une carrière en tant que tackle gauche en NFL, encore heureux. Et je pense que Jordan Morgan peut être une bonne pioche s'il est encore disponible à cette position et s'il atterrit dans l'escarcelle des Commanders.
Oui, je pense qu'il y a des chances qu'il soit disponible. C'est à peu près vers là que je le vois partir. Écoute, globalement, cette équipe des Commanders, elle a des besoins assez criants, tu l'as dit. Alors, il y a 2-3 recrutements qui sont sympathiques, hein, comme Tyler Baedash en tant que centre, mais ou Andrew Wiley en tant que tackle droit, mais clairement ce besoin de tackle gauche il est énorme et j'aime bien avoir un joueur comme Jordan Morgan, parce que en termes d'expérience c'est vrai que tu fais pas beaucoup mieux que lui, donc ces joueurs aguerris comme ça, j'ai toujours l'impression que c'est quand même plutôt rassurant, parce que quand t'es capable d'être aussi performant de manière aussi constante, sur une durée aussi énorme, entre guillemets, c'est quand même qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas dû au hasard, c'est pas une saison où tu flottes sur l'eau, etc., où tu marches sur l'eau, plutôt. Bref. Donc c'est un choix, moi, que je trouve intéressant, parce qu'en effet, c'est un joueur qui joue vite et qui joue, je trouve, plus puissant que ses dimensions physiques ne le laisseraient paraître. Donc il n'a pas peur en fait d'aller au contact et il est assez volontaire. Je trouve qu'il joue en fait il joue très bas, ce qui est logique parce que comme tu dis, petit déficit de taille, donc il va essayer de prendre avantage comme ça, parfois trop bas au point de devenir un peu une caricature de lui-même, mais Encore une fois, ça, c'est du coaching. Ça se travaille et on n'attend pas d'un rookie que ça soit un produit fini. Mais le potentiel, il est clairement énorme pour lui. Donc, on a le quarterback. On a la protection au niveau de la ligne. Et du coup, ça, je dois avouer que c'est un peu plus intéressant ou peut-être surprenant pour les gens. Puisque quand on pense receveur à Washington, on a Terry McLaurin, on a Jahan Dotson, on a Diami Brown aussi en menace profonde. Et pourtant, c'est bien vers un receveur que Washington va se tourner. C'est vers Roman Wilson de Michigan.
Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il faut quand même remplacer à minima un Curtis Samuel qui est parti pendant l'intersaison. Diami Brown, j'aimais bien le joueur à North Carolina, mais on a vu quand même que pour être un titulaire vraiment à NFL, c'était un peu plus compliqué. Et je pense surtout que Cliff Kingsbury va vouloir apporter vraiment de la vitesse dans cette attaque, comme il a souvent essayé de le faire, que ce soit en universitaire ou en NFL. Il faut se rappeler Arizona, hein, Marquise Brown, Rondell Moore, enfin beaucoup de joueurs qui misaient avant tout sur cette vitesse-là. Et je trouve que Roman Wilson a ce profil qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a à la fois des mains fiables, mais aussi cette explosivité qui peut lui permettre d'être un slot receiver à minima dans un premier temps extrêmement intriguant et permettre malgré tout à Terry McLaurin de rester le X receiver qu'il est aujourd'hui. Et un Jahan Dotson de continuer de prendre la profondeur comme il est capable de le faire également. Donc ça permettra d'écarter encore un petit peu plus cette attaque des commandeurs s'il y a besoin de le faire et d'avoir encore une fois un receveur avec des multiples facettes capable de rendre service dans beaucoup de situations, de faire avancer les chaînes dans beaucoup de situations. Et c'est aussi pour ça que mon choix s'est porté sur Roman Wilson dès le deuxième tour des commandeurs.
Je suis assez d'accord avec ça, je pense qu'il correspond bien, tu l'as expliqué, au système, etc. C'est un joueur fiable, c'est un joueur qui a des bonnes mains, c'est un joueur rassurant. Et je pense, alors peut-être que ça fait partie un peu de tout ce fantasme autour de J.J. McCarthy et d'autres joueurs de Michigan, mais je pense que le système a fait qu'il a été sous-utilisé et qu'il peut en faire beaucoup plus que ce qu'il a pu faire en université, notamment en termes de variété des tracés, on va dire ça comme ça. Clairement, il y a un côté tenter de devenir vraiment inarrêtable au sens où c'est vrai que si tu as trois joueurs aussi explosifs qui vont dans trois directions différentes, tu te dis il y en a forcément un qui va être disponible. Et Drake May,
tu peux rajouter aussi Austin Eckler qui lui aura un rôle très hybride dans la équipe offensive, ouais.
C'est vrai. Et Zach Ertz qui lui aura un rôle de père de famille. Mais voilà, je pense que et l'avantage c'est qu'en fait, si tu arrives à créer de la séparation sur ces joueurs tes tracés, etc. Drake May, ça fait partie de ceux qui sauront ajuster la passe pour la mettre exactement dans les mains du receveur. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est un pari qui a plus ou moins marché à Arizona. Ça a dépendu des périodes. On va espérer pour les Commanders que ce pari réussisse. Ici, on est d'accord que là, on est sur une équipe qui est clairement pas en train de jouer de titre pour l'instant. Ça serait quand même dommage dans cette draft-là de pas miser sur l'attaque et de pas se dire, bon, la défense éventuellement, on s'en occupera plus tard ou l'année prochaine, mais là déjà, c'est créer une base offensive parce que c'est de là que va partir ton équipe.
Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée parce que c'est sûr qu'on peut nous dire il y a des besoins, bien entendu, en défense. C'est vrai que le poste de edge rusher, même si on a été chercher quelques petits pions à gauche à droite, notamment des joueurs que connaissait Dan Quinn à Dallas, c'est pas pour ça que l'effectif est forcément transcendant. Au poste de cornerback, le fait que Kendall Fuller soit pas revenu, ça peut laisser un petit gap malgré tout à côté de Forbes et de Saint-Just. Ça, on l'entend. Après, il y a d'autres possibilités. Encore une fois, il y aura des choix dans les troisièmes tours qui peuvent éventuellement s'incorporer au mix, donner un mix intéressant. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien aussi, vu le niveau qui a pu être démontré par moment par la défense ces dernières années, d'avoir une attaque, et notamment une attaque aérienne, une attaque globale tout simplement, enfin dissuasive du côté de Washington pour être à l'unisson véritablement. Et en effet, comme tu le disais, peut-être perfectionner un peu plus la défense par la suite, au cours de la deuxième année ou avec les choix suivants des Commanders lors de cette draft 2024.
Oui, en tout cas, voilà, on vous a révolutionné l'attaque de Washington qui va devenir, franchement, s'il y a cette draft-là, ça fait partie des attaques que tu as forcément envie de voir dès la semaine 1, de voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a un potentiel explosif et un potentiel fun aussi, parce que ça fait partie, quand ce n'est pas forcément votre équipe, ça fait partie des choses qu'on a envie de voir en NFL. Et ça fait longtemps que Washington ne fait plus, on va dire, rêver sur un plan vraiment offensif. Donc, ça serait intéressant pour eux. Merci Grégory, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre deuxième pastille. On se retrouve demain et normalement, vous l'avez compris, mais la pastille de demain concernera une équipe du Nord-Est, une équipe qui essaye de combler l'héritage d'un certain Tom Brady. Ça sera le programme de demain. Merci à tous. Salut, salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.